Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes mercredi 3 novembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Nzamba à la TKKOE. Et c'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. La Cour de justice de l'EAC n'est pas assez indépendante pour statuer sur des affaires qui incriminent les autorités des États membres. C'est l'avis de l'ancien président de l'Association des barreaux de l'Afrique de l'Est, Maître Dieudonné Bachila Ishizé. Il le dit la veille du 20e anniversaire de cette instance, dont le président Nestor Kayobera fait un bilan pour le moins reluisant. Décidément, Makamba se spécialise dans les magouilles lors des processus de recrutement de personnel dans différents secteurs. Après les enseignants candidats, c'est au tour d'infirmiers et de laborantins qui protestent contre la constitution de la commission provinciale de recrutement alors qu'ils devraient passer leur test vendredi prochain. Le sort s'acharne sur les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. La police de ce pays a arrêté l'ensemble des éleveurs du camp de Nduta ce mercredi. Les réfugiés soupçonnent qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie de les forcer à rentrer au pays. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons ce journal par cette brève sur l'insécurité. Le corps sans vie d'une femme a été découvert dans la matinée de ce mardi 2 novembre sur la colline et commune de Gueru, en province Ouigi. La victime s'appelait Gonzague Niitunga. Elle était âgée de 30 ans et mère de 3 enfants. Son cadavre a été découvert par des passants. Les causes et les circonstances de sa mort restent confuses. Mais selon des sources administratives, elle aurait été violée avant d'être tuée. Gonzague Niitunga avait été vu pour la dernière fois hier en train de partager un verre avec 2 hommes. Pour le moment, les 2 hommes sont entre les mains de la police pour enquête. Depuis la création de la Cour de justice de la communauté est-africaine en novembre 2001, plus de 500 affaires ont été analysées et plus de 300 clôturées. C'est le bilan déclaré par Nestor Kayobera, président de cette Cour. C'était ce mercredi, dans un point de presse à la veille de la célébration de 20 ans d'existence de cette instance. Selon lui, la Cour marche bien grâce à une bonne administration et à une supervision professionnelle. Je vous prie d'écouter Nestor Kayobera, président de la Cour de justice de la communauté est-africaine.
Du 2 au 3 novembre 2021, c'est-à-dire d'hier et aujourd'hui, tout le président de la Cour, tous les juges, personne n'est à Arusha, tout le monde est ici. C'est-à-dire que ce soit le personnel, que ce soit les juges, tout le monde est ici. Ils sont en train de valider la stratégie de l'information, de la technologie pour une période de 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2026. Depuis sa création en novembre 2001, plus de 500 affaires ont été portées devant la Cour. Et parmi les 500 dossiers, plus de 300 affaires ont été clôturées et autour de 150 affaires sont en cours. La Cour a mis en place des sous-greffes au niveau de chaque pays partenaire et dans le cadre de faciliter la population d'accéder à la justice. C'est-à-dire qu'au niveau de tous les États membres, la population n'a pas besoin de se rendre à Arusha. La population peut porter une affaire au niveau des sous-greffes. Et dès que l'affaire est enregistrée au niveau des sous-greffes qui est ici au niveau des cours suprêmes, l'affaire est déjà enregistrée à Arusha au niveau du siège de la Cour. Pendant la période de la pandémie du Covid-19, la Cour a continué de mener ses audiences et a prononcé ses jugements sous les sessions virtuelles. Nous remercions le sommet des chefs d'État pour la permanence à Arusha du juge président et du juge principal. Cela a facilité une bonne administration et supervision de la Cour. Nous espérons aussi que le sommet pourra faire un pas en avant pour que tous les juges soient permanents à Arusha, afin que la justice ne soit seulement rendue, mais qu'elle soit rendue dans les délais raisonnables.
La Cour de la communauté est-africaine a encore beaucoup à faire pour avancer vers le respect des droits humains et promouvoir la démocratie dans les pays de l'EAC. C'est la réaction de Maître Dieudonné Bachila Ishizé, ancien vice-président de l'Association des barreaux d'Afrique de l'Est. Il indique que la Cour manque d'indépendance pour pouvoir rendre des procès incriminant les autorités des États membres. On écoute Maître Dieudonné Bachila Ishizé.
Il me semble que ces juges
sont prises en tenaille par les ordres venant de leur chef d'État qui veulent se protéger contre cette juridiction. En se comportant, en rendant des décisions qui vont dans le sens de dédouaner les autorités, non pas dans le sens de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, cette Cour ne rend pas véritablement un service qui était désiré par les populations. Je précise en passant que cette Cour, jusqu'à maintenant, n'a pas pu arriver à l'objectif de départ de pouvoir être une véritable Cour des droits de l'homme. Il était prévu en 2012 un Conseil des ministres qui allait proposer une réforme qui allait ouvrir cette Cour pour qu'elle puisse recevoir toutes les plaintes des citoyens de l'Afrique de l'Est qui seraient victimes des violations des droits de l'homme. Mais ça n'a pas encore été fait jusqu'à maintenant. On peut s'adresser à cette Cour pour clamer la violation du traité en essayant de se réfugier ou en essayant de se baser sur l'article 6 et 7 relatifs au principe de bonne gouvernance ou de respect des lois internes. La Cour, en peu de mots, a un résultat très mitigé parce qu'il est coincé par une absence d'indépendance et fonctionne à l'image des juridictions internes, bien que certaines juridictions se démarquent. Il y a des différences selon les pays, mais le gros reste à faire. Il faudra beaucoup d'audace dans le chef de chef d'État qui doivent laisser plus d'indépendance à cette Cour, mais les juges aussi doivent essayer de se démarquer des pays d'origine ou des systèmes judiciaires des pays d'origine.
Inzamba.
La suite de ce journal, il s'observe ce mercredi de longues files d'attente de gens qui espéraient être servis en carburant dans certaines stations-service de Bujumbura. Depuis hier mardi, rarité les stations qui en disposaient. Les automobilistes disent que cette pénurie de carburant handicape leur travail. Ils demandent à l'État de trouver une solution durable à ce problème. Le point avec Raoul Nguengurutse.
Au centre-ville de Bujumbura, ces longues files s'observaient ce mercredi matin aux stations-service Ex-Engen se trouvant autour de l'ancien marché central de Bujumbura, en face de la microfinance Mitek sur le boulevard de Luprona à la station Kobil. C'était la même situation comme à la station Katikati et celle se trouvant en face du Ciné Caméo au quartier asiatique. Selon certains chauffeurs qui attendaient d'être approvisionnés, sont arrivés très tôt le matin dans ces endroits après avoir eu vent des informations qu'il y aurait du carburant sur ces stations-service. Le constat est qu'il y avait parmi ces stations celle qui n'avait pas encore commencé à distribuer ses produits pétroliers jusqu'à 10 heures alors que d'autres ne distribuaient que de l'essence. C'est sans espoir que ces conducteurs parlent d'une attente et sans aucune certitude d'avoir du carburant. Au nord de la capitale et sur la station se trouvant tout près du pont reliant le quartier 7 de la zone Gagara et la zone Chibitoke sur l'avenue Kanyoni, très tôt le matin s'observaient déjà de longues files de ceux qui cherchaient le carburant. Ces derniers disent qu'ils ont préféré attendre dans l'espoir d'en avoir. La pénurie des produits pétroliers à mairie de Bujumbura paralyse le transport en commun, ce qui fait que ceux qui se rendent au travail le matin sont souvent en retard par manque de bus pour le transport. Autre chose, les files qui s'observent sur certaines stations-service créent des embouteillages sur certains axes routiers. Les agents qui distribuent le carburant disent qu'ils distribuent ce qu'ils possèdent et qu'ils arrêtent quand la quantité est terminée en attendant de s'approvisionner, ce qui peut faire 2 semaines sans carburant. Pour parier aux problèmes liés au transport à mairie de Bujumbura suite au manque de carburant, le ministère ayant les produits pétroliers dans ses attributions avait donné une liste des stations pour l'approvisionnement des véhicules de transport, une mesure qui n'a pas été efficace car parfois ces stations se trouvent sans carburant. Cela fait 2 mois qu'il s'observe un manque criant des produits pétroliers au Burundi. Le gouvernement est appelé à prendre en main cette situation qui s'aggrave de plus en plus.
La carence des devises et l'absence d'un stock stratégique carburant sont certaines des causes de la pénurie du carburant dans le pays. Lecture de l'ONG Parole et Action pour le changement et l'évolution des mentalités, PARCEM. Faustin Dikoumana, président de cette organisation, propose au gouvernement de demander des dons ou des crédits d'urgence pour que ce problème de devise puisse être résolu. Suivez-le.
Un pays qui ne parvient pas à constituer un socle stratégique est toujours exposé à de telles situations, à de tels risques. Parce que le socle stratégique permet à faire face à tous ces aléas, toutes ces perturbations liées à l'environnement macroéconomique ou la situation économique mondiale. La construction du socle stratégique est fondamentale. Beaucoup de pays même construisent un socle stratégique de 6 mois, une année. Et c'est paradoxal qu'au Burundi, on n'est pas vraiment jusqu'à maintenant un socle stratégique. Deux, le circuit d'approvisionnement. Le circuit d'approvisionnement doit être un circuit concurrentiel. On ne peut pas donner l'approvisionnement du carburant d'un pays à un monopole. S'il y a des difficultés, le fournisseur, s'il y a des difficultés, quand viendra ce circuit d'approvisionnement, il faut une concurrence, il faut 2, 3, 4 opérateurs économiques qui puissent participer à l'approvisionnement du pays en carburant avec dans une situation concurrentielle. Troisièmement, c'est la capacité de payer les fournisseurs à partir des devises. Parce que le carburant que nous consommons ici doit être payé en devises étrangères. Donc, il faut que le pays puisse avoir une bonne quantité de devises, des réserves de change pour ne pas tomber en cessation de paiement. Si on analyse la balance commerciale, par exemple, de 2014, on constate que les besoins en devises pour approvisionner le pays en carburant étaient couverts à peine par les devises d'exportation, des produits exportés par notre pays. Donc, vous voyez qu'il y avait, le problème de devises avait commencé auparavant. Maintenant, il s'est accru. Il faut que le gouvernement puisse trouver des solutions concrètes. Si c'est un don, c'est un crédit d'urgence, il doit faire tout. Et quatrièmement, c'est le prix réel à la pompe, le coût, le prix réel, parce que tous les opérateurs qui font son commerce d'approvisionnement en carburant doivent avoir un profit, c'est un des privés. Et dans ce cas, il faut avoir le prix à la pompe, voir si réellement le gouvernement a pu abandonner certaines taxes, si il advenait que le prix augmente au niveau du marché international. Sinon, si le gouvernement ne parvient pas à abandonner certaines taxes, le prix risquera d'augmenter.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour 3 raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Le personnel de l'entreprise Afritextile observe un mouvement de grève depuis ce mercredi. Ils accusent le directeur général de l'entreprise de violer le code de travail et le règlement de l'entreprise. Une rencontre avec la direction et les représentants du personnel au conseil d'entreprise était prévue dans l'après-midi de ce mercredi, mais ils ont eu peur de s'y rendre parce qu'une escouade de policiers a encerclé les bureaux et les ateliers de l'entreprise. Ils craignent des arrestations arbitraires. Reportage Georges Nimenia.
Ce personnel de l'entreprise Afritextile qui observe un mouvement d'arrêt du travail fait savoir que c'est à cause d'une mauvaise gestion de la part de la direction. Entre autres, le non-respect du code du travail et le règlement de l'entreprise. À toute demande de dialogue, le directeur recourt à la force pour les intimider.
La direction qui ne veut pas appliquer la loi. Nous avons pu essayer de faire de la négociation. Il y a beaucoup de dialogues. Même le secrétaire du travail a envoyé plusieurs inspecteurs. Nous n'avons pas arrivé sur une chose plus convenable. Le secrétaire du travail est penché sur la direction de la justice. Non, il n'y a pas de dialogue car la justice a amené beaucoup de police pour intimider les membres du conseil. Nous avons dit au directeur du qu'ils puissent envoyer en dehors les policiers qui se trouvent à l'intérieur de la tribune pour que nous puissions dialoguer librement. Aujourd'hui, nous voudrions avoir le directeur du CDG, c'est-à-dire le président du directeur général de la tribune. Au cas où le CDG puisse nous recevoir, la grève est extrêmement.
Il donne l'exemple de la disparité salariale qui est plus qu'un scandale. Cette situation provoque au sein de l'entreprise une frustration au niveau du personnel.
l'entreprise n'applique pas la loi. Si les choses concernant le code du travail et le règlement de l'entreprise, la deuxième chose, c'est la mauvaise organisation de l'entreprise. Je vais vous dire la loi qui concerne la négociation sur le salaire. Chaque travailleur, quand il s'est engagé dans la textile, il y a un problème. Les techniciens, 150 000, 140 000, 195 000, or qu'ils ont le même niveau et le même travail. Les gens pour lesquels nous avons pu l'appliquer, c'était grave, car les travailleurs sont très passés.
Les travailleurs de l'entreprise de Fusectil disent en outre que leur mouvement de grève est conforme à la loi. Il déclare avoir informé tous les échelons et que le préavis a été donné à temps réel. Il relate également que le service minimum est garanti au niveau de l'entreprise. Le directeur général de l'entreprise, Gilbert Nzeimana, fait savoir que l'arrêt du travail est contraire à la loi. Le dialogue entre les représentants du personnel au sein de l'administration est une réalité des caractéristiques de l'entreprise et de dire qu'il était prévu une rencontre avec les responsables de l'entreprise de l'après-midi de ce mercredi. Sur la question de savoir pourquoi il y a la présence des policiers en nombre inquiétant, le directeur général de l'entreprise dit qu'ils sont là pour assurer la sécurité de ceux qui sont toujours au service.
On vient de l'apprendre, la réunion qui était prévue entre la direction de l'entreprise, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise et les inspecteurs du travail a finalement eu lieu, mais en l'absence des représentants du personnel. Je vous le disais dans les titres, la commission provinciale de recrutement des infirmiers et des laborantins de Makamba est contestée par les lauréats. Cette commission a été mise en place par les ministères de la fonction publique et de la santé. Le test est prévu vendredi prochain. Les détails avec Diane Vurunziza.
Selon certains employés du personnel de la santé, cette commission ne peut pas bénéficier de la confiance. En effet, tous les 5 membres de cette commission sont militants du parti au pouvoir CNDD-FDD. Ils condamnent l'exclusion des représentants des différents syndicats dans cette commission provinciale de recrutement. Cela est aussi confirmé par les responsables syndicaux contactés. Ces derniers disent que cette commission ne peut pas bénéficier de la confiance vu que certains membres de cette dernière faisaient partie des commissions antérieures et que plusieurs irrégularités se sont fait remarquer. Ils expliquent que certains candidats, lors des examens antérieurs, faisaient glisser de nouvelles copies après passation du test de sélection, une tricherie orchestrée par les membres de la commission. Selon toujours la même source, cela se faisait moyennant des ponts de vin et d'autres à cause de leur appartenance au parti au pouvoir. Tous demandent que cette commission soit modifiée, arguant que certains reviennent alors qu'ils faisaient partie des commissions antérieures qui ont été entachées de plusieurs irrégularités. Le médecin provincial est le premier visé par ces critiques. Signalons que cette commission est composée de 5 membres, dont 2 médecins, qui sont le médecin provincial et le médecin chef du district de Nyanzalak. 3 autres sont de différents ministères, dont un directeur général au ministère de Jeunesse et des Sports, et un autre de l'antenne provinciale de la fonction publique à Makamba, et un responsable de la CDFC dans la même province. 40 candidats, dont 34 au poste d'infirmier et 6 candidats laborantins. Certains ont préféré ne pas participer, croyant que les mêmes irrégularités vont se répéter. D'autres disent qu'ils ont préféré abandonner car ils viennent de passer plusieurs années à la maison et par conséquent qu'ils ont oublié la matière apprise. Suite à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba a appelé sans succès Dr. Niranyibagira Oscar, président de la commission provinciale de recrutement du personnel de la santé.
Et pour terminer, la police tanzanienne a procédé ce mercredi à l'arrestation de tous les éleveurs réfugiés vivant dans le camp de Ndouka. Selon un témoin vivant dans ce camp, c'est une façon de contraindre les réfugiés de rentrer par force au Burundi. Ce réfugié burundais demande au gouvernement tanzanien de faire respecter la convention internationale protégeant les réfugiés. Les détails avec Vanessa Muhiteka.
Selon nos sources sur place dans le camp de Nduta, ces réfugiés ont été arrêtés parce qu'ils exercent l'activité d'élevage à l'intérieur du camp. Après leur indication, ils ont été conduits dans les cachots de la police à Nduta. Un des réfugiés vivant dans son camp estime que c'est du pur harcèlement qui ne vise qu'à contraindre les réfugiés burundais de rentrer par force, même si l'insécurité reste persistante dans le pays.
Nous demandons pourquoi les autorités tanzaniennes ne forcent pas facilement à eux. Le président de la République du Burundi, Raif Mbashimiye, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il a déclaré qu'il y a un groupe armé qui opère au pays. Même ici en Tanzanie, devant son homologue tanzanien, il a dit qu'il y a un groupe armé qui opère au pays. Est-ce que c'est ce pays qui nous dit qu'il y a la paix et la sécurité? Un pays où chaque matin on découvre des cadavres, on a enregistré chaque jour, quotidiennement, à des disparitions forcées.
Les réfugiés de Douta demandent au gouvernement tanzanien de cesser de les forcer à rentrer par force et surtout de respecter les conventions internationales protégeant les réfugiés qu'il a ratifiées.
Nous demandons vraiment aux autorités tanzaniennes de ne pas nous forcer à rentrer. Et on espère de rappeler à la Tanzanie ses engagements en rapport avec la protection des réfugiés.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du chef du camp de Douta, non plus celle des représentants du HCR. Pour rappel, ces décisions visant l'interdiction de l'élevage à l'intérieur du camp de Douta avaient été prises au mois d'avril 2021 et le dernier deadline était fixé au 15 mai de la même année. Ces décisions avaient venu s'ajouter à celle des fermetures des marchés, l'interdiction des activités champêtres, la libre circulation en dehors du camp et autres.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakaoué pour la production de ce journal. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.